Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Quoi ça sert la justice ?
Je sais pas.
Comme je suis fan de super-héros, j'ai vu que la justice, on défend...
Les enfants les peuvent-ils parler ?
Une dame qui...
Une série documentaire de Clément Salzar et Anne Fleury.
Par imagination, il a...
Troisième épisode.
Le droit à l'innocence.
Prendre le cinquième. Et après, il fout des baffes.
Ok. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une injustice ?
Attends,
une injustice, en fait, c'est injuste.
C'est parce qu'on n'a rien.
Qu'est-ce que je dis, moi ?
Grand-Moudou, il a une gourde-neige, et moi, j'en ai pas.
Donc là, c'est un peu de l'injustice, parce que
c'est quelque chose que nous, on n'a pas.
Qu'on n'a pas toujours.
Il a la justice.
Voilà.
Moi, je m'appelle Aymen, j'ai 17 ans, je suis un jeune des quartiers populaires de Nanterre, je suis en terminale STMG, et à côté, le soir, je travaille en tant que livreur dans un restaurant.
Et est-ce que vous voulez me parler de vos liens avec Naël ?
Alors Naël, on habite dans le même quartier, donc j'ai grandi avec lui, j'étais au centre avec lui, au collège avec lui. Enfin, après l'école, on se voyait, on jouait. Des fois, on travaillait ensemble dans des restaurants et tout ça. On livrait ensemble. On faisait des sorties à moto. Des fois, quand on se voyait dans des zones industrielles pour faire de la moto. Alors moi, le 27 juin 2023, à 2h du matin, j'étais en live sur TikTok. Puis j'ai arrêté mon live et j'étais en appel avec Naël à 2h du matin. Donc je finis ma soirée, je rentre chez moi, je me dors, je me réveille à 13h. Mon téléphone qui me réveille. Mon téléphone toute la matinée, il sonnait. Je recevais que des messages. Je me suis relevé avec je sais pas combien de messages de mon frère, de ma famille, de tout le monde, de mes amis aussi. Après j'ouvre ma cousine, elle m'envoie un article d'un média. J'ouvre. Je vois un jeune homme a été tué à Nanterre. Je comprends pas. J'essaie de savoir plus ce qui s'est passé. Je regarde les stories sur Snap de mes amis. Et là, en fait, je vois que c'est mon ami qui a été tué. Donc moi, je m'habille direct. Il était 13h, ça s'est passé à 8h. Je mets mon casque, je prends mon scooter, j'y vais direct sur les lieux. Et là, je vois le panneau enfoncé à cause de la voiture et des fleurs. Et là, ça a été... Là, j'ai réalisé que ouais, il était plus là. Je m'effondre parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Comment ils ont pu faire ça ? C'est inconcevable de faire ça à un jeune homme de 17 ans.
France Inter, juin 2023.
Comme on pouvait s'y attendre, toute la soirée, une partie de la nuit à Nanterre, ville populaire de l'Ouest parisien, comme dans plusieurs autres communes d'Île-de-France, des incidents ont éclaté, voitures incendiées, palettes et poubelles brûlées, abribus détruits. Au total, les face-à-face avec les forces de l'ordre, pas moins de 2000 fonctionnaires mobilisés, ont conduit à une trentaine d'interpellations. La colère, donc, après le choc, la mort filmée d'un jeune automobiliste de 17 ans abattu par un policier pour refus d'obtempérer, c'est en tous les cas le motif officiel avancé. Sauf que ce n'est pas, en l'occurrence, ce que montre la vidéo, puisque sur les images, on voit clairement deux policiers contrôler les occupants d'une voiture à l'arrêt. Penché à la portière, l'un des fonctionnaires tient en joue le conducteur avec son arme de poing, braquée à quelques centimètres. Et lorsque le jeune homme redémarre à peine, l'agent tire à bout portant depuis le côté gauche de la voiture.
Qui a un problème d'intégration derrière ? Oui.
Personne se trouvait à l'intérieur du véhicule.
Pas besoin des émeutes pour le savoir.
Passager qui a pris la fuite et un second également mineur.
Et qui va des deux côtés. Parce qu'on a encore trop d'assignations à résidence et parce qu'on n'a pas été assez rigoureux sur certains points. et ce qu'on mène en matière de rénovation urbaine, en matière d'éducation, en matière d'accès à la culture, au sport, et en matière justement aussi d'opportunités économiques, pour moi, doit y continuer. Mais c'est plus compliqué ce qui s'est passé. Quand j'ai parlé aux maires dans les 500 communes où il y a eu ces émeutes, d'abord, elles sont intervenues fin juin. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. L'oisiveté, vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport. Ils s'ennuyaient.
Lors du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre 2019, Emmanuel Macron déclarait que le premier droit d'être enfant, c'est le droit d'être innocent.
Naël, c'est un garçon, il était très taquin, on pouvait rigoler de tout avec lui. C'est un garçon super, qu'on avait besoin d'un truc, il était là, il disait toujours oui. Dans le quartier des Pablo, il habitait là-bas, ça l'appelait oui-oui. Enfin, à chaque fois, parce qu'à chaque fois, il disait oui, tout le temps, il disait oui à tout. Les médias, ils nous salient comme, je sais pas quoi, comme c'était une figure du grand banditisme, alors que pas du tout. Il est peut-être connu des services de police, mais en aucun cas, il a été condamné. Nous, toute l'année, on subit des bavures, des insultes, des provocations, des coups. Toute l'année, on subit ça. On se dit qu'ils peuvent pas faire plus que ça. Mais si, maintenant ils nous tuent. Et ça fait que engendrer de la colère, de la haine, de tous les sentiments, les passer par tous les sentiments possibles. Mais ouais, la colère, la haine surtout, elle a camouflé la tristesse. En tout cas pour moi, jusqu'à l'enterrement. Et après, c'était que de la tristesse.
Gundo Diawara, vous êtes CPE, donc conseillère principale d'éducation, dans un collège. Est-ce qu'on peut dire la ville ?
Oui, j'exerce à Garges-lès-Gonesse.
Je me demandais si les enfants se confiaient à vous et qu'est-ce qu'ils partagent avec vous ?
Alors, en tant que CPE, effectivement, je reçois beaucoup de confidences de la part des élèves, que ce soit dans l'aspect relationnel entre élèves, entre pairs, relationnel également avec leurs enseignants, mais ça peut également aller beaucoup plus loin avec des conversations autour de leurs conditions de vie, de leur vie familiale aussi, beaucoup. Moi, j'exerce quand même dans un établissement qui est classé éducation prioritaire renforcée, dans un quartier qui est classé avec tous les sigles qui peuvent exister, quartier prioritaire, je crois que même qu'on dit aujourd'hui quartier de reconquête républicaine. Voilà, donc voilà, les choses sont annoncées et on sait que c'est un territoire qui concentre un certain nombre de difficultés économiques, sociales, etc. Et forcément, nous, on reçoit les enfants des personnes qui vivent ces difficultés-là. Alors, ils vont pas forcément décrire ces choses-là comme des violences, mais plutôt comme un état de fait. C'est-à-dire, voilà, nous, on vit à tant de personnes dans un appartement avec deux chambres, par exemple. Ma mère, elle a telle difficulté, ou ma mère est seule, par exemple. Elle est obligée d'avoir deux ou trois boulots. Ils vont parler de leurs conditions de vie. Beaucoup aussi du quartier, c'est-à-dire de comment ils s'organisent, dans quels espaces ils peuvent circuler plus ou moins librement, sachant qu'en plus, c'est un quartier qui est en rénovation urbaine, donc avec beaucoup de travaux, etc. Donc ça, c'est vrai que les élèves en parlent aussi beaucoup. Mais l'institution, évidemment, et je dis évidemment de façon neutre, juste en rapportant la parole des enfants, l'institution avec laquelle les relations sont les plus tendues pour les jeunes garçons, dès qu'ils apparaissent dans l'espace public, c'est évidemment la police. Et ils en parlent de manière très, très, très ouverte. Et nous, si on assiste, quand on fait les sorties d'élèves, etc., on assiste à des moments assez fous, où on a des agents qui demandent à des élèves qui ont encore leur sac de cours, de se mettre contre le mur, d'ouvrir leur sac. Alors on demande parfois, même souvent, en tout cas moi je sais que je le fais tout le temps, je demande quelle est la raison de ce contrôle. Oui, il paraît qu'un petit a volé ou je ne sais quoi. Enfin, et évidemment, eh bien, tous les élèves sont perçus comme potentiellement coupables de quelque chose, même lorsqu'il n'y a rien. On nous a même déjà avancé que c'était de la prévention. Sauf que la façon dont ces contrôles se font ne peuvent pas laisser penser que c'est de la prévention. Parce que les élèves ne se sentent pas respectés dans leur intégrité, qu'on ne leur parle pas bien. Et parfois, il y a même des violences verbales, parfois des violences physiques. Donc forcément, c'est un petit peu, c'est quand même assez contradictoire avec cet esprit de prévention.
Vous avez 17 ans et vous diriez que votre premier contrôle de la police, c'était à quel âge?
Je devais avoir 11 ans. 11 ans, ouais, je me rappelle, comme c'était hier. C'était à la zone industrielle, ils contrôlaient tous mes amis, moi je suis arrivé. Ils m'ont dit, allez hop, toi aussi on te contrôle. Premier contrôle, 11 ans, première interpellation, 12 ans. C'est une histoire bête, hein. J'avais un Vélib... Je sais pas, moi, je voyais tout le monde avec ça. J'avais pas qu'il était volé. Et en fait, si, il était volé. Et ils m'ont vu avec, direct. Ils se sont pas dit, ouais, peut-être il l'a loué ou un truc comme ça. C'est maintenant que j'y repense. À peine ils m'ont vu, ils sont descendus direct. Alors, je suis sûr que si c'était quelqu'un de mon âge avec une ethnie différente, ça serait pas passé pareil. Ils m'ont emmené au poste. J'ai fait une vérification d'identité parce que j'avais pas mes papiers. Ils ont appelé mes parents, mon père est venu me chercher. Et après, j'ai été reconvoqué plus tard, mais elle a été classée sans suite, celle-là.
Et comment est-ce que vous décririez, en fait, à chaque fois qu'il y a ces interactions-là avec la police, c'est sur la base de quoi?
Ça part de contrôle. C'était connu pour stup. T'es dans ta cité, t'es posé, t'as rien fait, hein, pas forcément. Ils vont te voir, ils vont te contrôler, et là, ça va partir de là. Les provocations, donc sur son shit, tous ces trucs-là. Et là, ça part, les coups, les insultes. Dans la voiture, j'en parle pas. C'est le pire moment en général dans la voiture. Alors en salle de fouille, j'en parle encore moins, quand ils nous emmènent en garde à vue. Moi, une fois, j'étais en garde à vue, ils m'ont menacé de me violer en salle de fouille. J'ai plein d'amis, quand ils étaient posés au quartier, la police descendait et ils disaient... Bon, aujourd'hui, est-ce que je cite hein, le mot, on encule lequel aujourd'hui? Et ça, en fait, c'est à répétition, c'est souvent, 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 souvent.
Et là, par exemple, les contrôles auxquels vous faites référence, c'est toujours quand on est connu déjà par les services de police?
Non, pas forcément. Des fois, il n'y a pas de motif, hein. On est juste assis le soir, par exemple, entre amis, après avoir mangé, on se pose. Et là, les contrôles, ça part. En fait, ça part de ceux qui veulent. C'est selon eux. Mais nous, on n'est jamais au courant du motif de contrôle. On sait qu'ils doivent avoir un motif pour nous contrôler. Mais bon, on préfère laisser passer plutôt que s'embrouiller avec eux et engendrer des autres histoires encore.
Les jeunes de quartier populaire n'ont pas le privilège de l'innocence. C'est marrant parce qu'ils n'ont pas le droit d'être des enfants à 17 ans, alors que d'autres bénéficient justement jusqu'à 24, 25 ans parfois de cet état d'esprit de la jeunesse. Oh, c'est parce qu'ils sont jeunes. On parle beaucoup en France, par exemple, de la jeunesse qui fait les 400 coups, etc. Et dans ce discours-là, on normalise le fait que à cet âge-là, il puisse exister effectivement un certain nombre de bêtises, d'erreurs, etc. Sauf que les jeunes de quartier populaire ne bénéficient pas du tout de cette indulgence, de cette tolérance, de ce discours, parce que ils doivent être matés, vraiment, parce que ce sont par nature, entre guillemets, des graines de criminels, des graines de délinquants, et donc... Au niveau de la sociologie, on sait qu'il s'agit d'enfants très souvent pauvres, qui ont des origines immigrées, qui sont perçus comme on dirait aujourd'hui non blancs, c'est-à-dire que il y a une étude qui est très souvent citée et qui vient de l'État lui-même, à travers la Défenseure des droits, qui dit que lorsqu'on est perçu comme noir ou arabe, on a entre 7 et 9 fois plus de chances d'être contrôlés dans la rue. Et cette différence-là, cette différence de traitement, cette différence de perception, elle a des conséquences terribles dans la vie quotidienne de ces jeunes-là, parce qu'ils se construisent en se disant qu'il faut d'emblée qu'ils montrent patte blanche.
S'il y a eu autant d'intensité dans ces révoltes, c'est qu'il y a une blessure qui est profonde. Donc les émeutes, ça a commencé le soir même. Le soir même, les gens se sont armés de mortiers. Énormément de mortiers. La police n'était pas prête à ça. Elle était vraiment pas prête.
Mortiers d'artifice,
c'est ça, oui.
Vous avez un participé ?
Ouais, on va pas se mentir, j'ai un peu participé. Après, ça choquerait d'autres et... D'autres me comprendront, j'ai 17 ans, je perdis un ami. Et j'ai la vidéo des derniers souffles de mon ami. Et j'ai vu mon ami dans un cercueil, j'ai enterré mon ami de mes propres mains. À 17 ans, c'est pas la vie d'un gamin de 17 ans, ça. C'est pas la vie à avoir, ça. Donc ouais, la colère, elle a pris le dessus et j'entendais plus rien, je voyais plus rien, je voyais noir, vraiment. On pouvait pas me parler, on pouvait pas me raisonner, c'était impossible.
Donc au cours de ces révoltes, il y a eu environ 1150 mineurs interpellés. Il y avait beaucoup de petits.
Bah, s'il y a des personnes de 12 ans qui sont là, c'est qu'il y a un réel souci. C'est qu'il y a vraiment un problème. Un enfant de 12 ans n'a pas sa place dans une révolte. S'il y avait une police plus agréable en France... Je peux vous assurer que les gamins de 12 ans, ils seront chez eux à faire leurs devoirs et jouer à des jeux. Ils seront pas dehors avec des mortiers et des masques pour faire des révoltes, quoi. Ouais.
Et est-ce que vous trouvez que quand vous avez une parole politique, on vous écoute ?
Ouais. Quand on a une parole politique, non, mais qu'on a des actions, là, bizarrement, oui, on parle de nous, on met la lumière sur nous. Ça fait des années que moi, je dénonce les bavures policières. Parce que moi, j'ai été élu au conseil municipal des jeunes en 2018. 2018, je devais avoir 13 ans. Et j'avais fait voter mon idée au conseil municipal des jeunes avec le maire et tout ça. On a tout voté.
C'était quoi l'idée ?
C'était de renouer les liens entre la police et les jeunes. On voulait faire intervenir la police dans les quartiers. C'est-à-dire en mode, ils venaient, ils nous les présentaient... les différents types de métiers qu'il y avait dans la police. Ils faisaient essayer leurs gilets pare-balles, leurs casques aux jeunes. Parce que j'avais vu ça sur Internet, qu'il y avait des actions comme ça policières dans les quartiers qui se passaient. Donc je me suis dit que ouais, j'ai envie de le reproduire dans ma ville pour que ça se calme, pour que les policiers aient une meilleure image des jeunes de quartier, que les jeunes de quartier aient une meilleure image de la police. Et ouais, j'avais organisé une réunion avec le commissaire de Nanterre. On a fait un rendez-vous, il n'y a rien eu après d'autre. Voilà, donc c'est rentré dans une oreille, c'est ressorti de l'autre.
Vous pensez que les révoltes, elles vont changer quelque chose ?
Pas forcément changer quelque chose, mais dans l'affaire, le policier est toujours en prison. Donc si ça a pu permettre de le laisser en prison, je me dis que... Si on n'avait pas fait ça, il serait dehors. Il serait dehors et ça aurait été déjà classé sans suite.
Mohamed Razan, est-ce que vous pouvez me dire l'âge que vous avez et où est-ce que vous avez grandi ?
C'est méchant. J'ai 55 ans et je suis issu d'une commune qui s'appelle Gagny dans le 93, qui est limitrophe avec Montfermeil. C'était une cité, on l'appelait ça la cité grise, parce que tous les immeubles étaient de la même couleur, ils étaient gris.
Et comment vous décririez peut-être votre vie d'enfant ?
J'ai eu, moi, plutôt une enfance joyeuse, on va dire, dans un environnement qui l'était beaucoup moins. Voilà, on va résumer ça comme ça. Joyeuse parce que j'avais une famille, et je suis issu d'une famille nombreuse, où la gaieté était relativement présente, avec des parents relativement présents dans notre éducation, avec plein de rêves. Dans un environnement moins joyeux, parce que l'environnement était fait de beaucoup de détresse. J'ai grandi avec beaucoup de jeunes qui ont mal fini. À mon époque, ma génération à moi a connu l'époque de la cocaïne qui a fait beaucoup de dégâts dans nos quartiers. Donc j'ai beaucoup d'amis qui en sont morts, des amis d'enfance. Et d'autres qui ont fait des allées et venues prison, qui sont pendus en prison. C'est le côté moins joyeux, on va dire. Grandir dans un quartier populaire, malheureusement, en fait, c'est se donner le moins de chance pour pouvoir se construire.
Est-ce que quand on est enfant, quand on est ado, dans les quartiers populaires, on est particulièrement la cible, particulièrement dans le viseur des forces de l'ordre ?
Ah oui, ça je l'affirme, pour l'avoir vécu personnellement. Il s'est allé là aussi, malheureusement, en se dégradant. Et le défaut, ou en tout cas le tort de la police, c'est de ne pas prendre la mesure d'une réalité qui est qu'une partie de la police a un regard particulier sur les enfants et les jeunes de nos quartiers, particulièrement les profils arabes et noirs. Les contrôles, la répétition, la violence policière, c'est une réalité. À mon époque, c'était compliqué de pouvoir prouver qu'on a été l'objet de violence. Aujourd'hui, avec les téléphones, on ne peut plus nier. J'ai connu des policiers qui sont devenus des amis. Et malheureusement, on les forme à une forme de rapport, de domination vis-à-vis de ces jeunes-là, des quartiers, mais vraiment. Et puis, une espèce de gestion, on va dire, post-coloniale de ces populations-là. Voilà. Et il faut en sortir de ça. Il faut en sortir. Et les jeunes ne demandent pas mieux. Ils demandent à être respectés, tout simplement. Respectés. Et moi, je vous dis, et même adulte, j'ai vécu ça. À la sortie de mon livre, j'ai pas mal été invité dans les quartiers. J'étais intervenu sur un quartier dans le 91 où il y avait des soucis entre deux cités. Donc avant de commencer, moi j'étais à l'extérieur avec tous ces jeunes-là des quartiers. Je fumais ma cigarette et puis on voit arriver un escadron de policiers qui nous alignent tous, moi compris. Et ils n'ont aligné que les Arabes et les Noirs. Les Blancs, ils ne leur ont pas demandé de s'aligner. Et quand on demande à parler aux supérieurs, on se fait violenter. Donc quel est le message en fait ? Donc moi déjà j'étais père de famille. Comment je l'ai vécu intérieurement, c'était je bouillonnais de colère, vraiment, de vivre cette injustice. Alors on se met dans la peau d'un jeune qui est sur le registre émotionnel, l'adolescent, c'est ça. Comment lui peut vivre ça émotionnellement ? Comment il peut vivre ça ?
France Inter, 2005.
Le journal Alain Passerelle.
Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Au sommaire de cette édition, y aura-t-il une huitième nuit de violences urbaines ? Plus de 300 véhicules incendiés la nuit dernière, des destructions de bâtiments publics, des tirs à balles réelles. L'État républicain ne cédera pas. L'ordre et la justice auront les derniers mots, a averti cet après-midi Dominique de Villepin, qui a tenu trois réunions aujourd'hui sur le sujet. Le prix Goncourt attribué à François Weyerganz pour 3 jours avec ma mère. Welbeck, une nouvelle fois, débouté. Et puis le grand retour de Nicolas Anelka en équipe de France de football.
Ce qui a déclenché cette violence, c'est la mort de deux mineurs électrocutés alors qu'ils s'étaient réfugiés dans ce local d'EDF.
20h de TF1, 2005.
Plusieurs adolescents présents hier soir affirment que les policiers poursuivaient les victimes.
Ils étaient quatre. Lui est parti de son côté et les trois autres sont partis de l'autre côté. Et il a bien vu que la police était derrière eux. Derrière les trois autres.
Et ils m'ont lâché moi pour les
pousser. Ils l'ont laissé lui parce qu'il était tout seul et ils sont partis vers les trois autres.
Version démentie par la police, la justice et le ministre de l'Intérieur.
En milieu de journée, entre deux réunions, Nicolas Sarkozy a reçu les familles de Zied et de Bouna, les deux adolescents électrocutés la semaine dernière à Clichy-sous-Bois. C'est là que tout a démarré, pour leur présenter l'avancement de l'enquête de l'IGS, l'Inspection Générale des Services.
Votre roman, qui est paru en 2006 chez Gallimard, il s'appelle « Dit violent ». Pourquoi il s'appelle comme ça, « Dit violent » ?
Il s'appelle « Dit violent » parce que c'était en réaction avec le discours politique qui... Alors moi, je suis un acteur social, éducateur, maintenant je suis directeur, et particulièrement avec les enfants, agités, on dirait qu'il y avait quelques délicatesses avec la loi, on va dire. Et le discours politique et médiatique à l'époque m'avait singulièrement révolté parce qu'il se résumait en éléments de langage, sans derrière d'analyse pour comprendre pourquoi des jeunes en arrivent à cette situation de devoir s'exprimer par la violence, en tout cas qui se retrouvent dans cette situation de... Et que ça reste des enfants, en fait. C'est des adolescents, ça reste des enfants. Et c'est aux adultes de comprendre pourquoi on arrive là, en fait. C'est la responsabilité des adultes. Et les adultes, à ce moment-là, ce qu'ils nous renvoyaient, c'était... c'est juste des enfants dits violents. C'est de la racaille carchérisée, c'est des sauvageons, pour reprendre des terminologies utilisées à l'époque. Et dans tout ce qui était dit, rien ne venait éclairer, nous citoyens, sur comment on arrive là, en fait. Et bien évidemment, il y a un terreau pour ça. Un enfant ne décide pas du jour au lendemain de bousiller sa vie, à se retrouver devant le juge et au commissariat, juste parce que pour embêter les gens.
Vous écrivez « La crise en banlieue obéit à un processus d'une alchimie complexe, mélangeant conditions sociales, injustice, misère, amertume, histoire personnelle, une société effrayée par ses enfants, des enfants oubliés par la République, etc. » La vérité est bien loin de ce que nous racontent la télé et les démagogues. Le jour où l'on s'intéressera sérieusement à cette complexité, un pas sera franchi dans la compréhension de la banlieue. Ce roman, il est paru en 2006. Oui. On est près de 20 ans plus tard. Donc, est-ce que c'est encore valable ?
Non seulement c'est valable, mais ça s'est dégradé, puisque moi je suis aussi un acteur. Je dirige des établissements d'enfants... qui sont placés, comme on dit, soit par la justice, soit par l'aide sociale à l'enfance. Donc des enfants qui sont en danger dans leur milieu, dans leur environnement, ou des jeunes qui sont en délicatesse avec la justice. Donc qu'on oriente vers des établissements qui sont des alternatives à la prison. Donc exactement. Alors moi c'est un centre éducatif renforcé, mais c'est la même chose. C'est l'alternative à la prison. Et le volume d'enfants qu'on oriente est de plus en plus important. Et les situations des familles est de plus en plus dégradées, avec des problématiques maintenant qui sont kérielles, des problématiques sociales, économiques, éducatives, et un phénomène et pas des moindres, de la détresse psychologique, vraiment. Cet élément-là, il est beaucoup plus prégnant aujourd'hui qu'à l'époque, en 2006.
À propos de la situation économique des écoles en Seine-Saint-Denis, un rapport parlementaire de 2018 sur l'éducation prioritaire indique que l'école la moins bien dotée de Paris est mieux dotée que l'école la mieux dotée de Seine-Saint-Denis.
Moi, ce que je déplore, à la fois en tant que personnel d'éducation et à la fois aujourd'hui en tant que maire, c'est que...
Gundo Diawara.
Des priorités dans une époque... comme la nôtre, des priorités autour de cette jeunesse, il y en a, et des urgences, il y en a beaucoup. Moi, j'exerce dans un établissement dans lequel on a des élèves qui nous disent qu'ils ne mangent pas à leur faim. Et c'est vraiment pas pour faire du misérabilisme, c'est la réalité. On a mis en place l'année dernière des petits déjeuners pour que des enfants puissent venir manger à l'école. Il y a eu une aggravation avec des enfants qui vont d'hôtels sociaux en hôtels sociaux. Ça, ce sont des urgences vitales.
Les discours qui ont été produits à la suite de ces révoltes, c'était beaucoup centré sur la question de la responsabilité des parents, de restaurer l'autorité parentale.
C'est pas nouveau tout ça. C'est pas nouveau et c'est une très mauvaise piste. Comment on fait quand on est une maman, qu'on a 3-4 enfants, on lui interdit d'avoir des enfants ?
Mohamed Razan.
Quand, pour subvenir, donner à manger à ses enfants, elle doit aller faire des ménages 2h le matin, entre 7h et 9h, rentrer à la maison et repartir pour glaner quelques heures en fin de journée parce qu'elle ne peut pas travailler pendant que les gens sont au bureau et qu'elle n'est pas à la maison pour pouvoir voir ses enfants rentrer et pour les accompagner, de se préoccuper de leurs devoirs. Bien évidemment, les enfants traînent dans la rue et c'est comment aider cette maman-là, en fait. C'est ça la vraie question, parce que le revenu moyen par foyer sur ces quartiers-là, c'est moins de 1100 euros. Ce dont on a besoin, c'est plus de justice sociale, plus de justice économique.
Nos parents ne savaient pas. Voilà, nos parents ne le savaient pas qu'on était dans les émeutes. Moi, ma mère, elle m'a crié dessus, elle m'a... pour faut pas que j'y aille. Alors d'aujourd'hui, elle sait pas que j'y étais. Donc oui, on a tous menti à nos parents, on a tous dit non, on n'y va pas, t'inquiète pas, mais on y était tous.
Gundo Diawara est aussi co-secrétaire du Front de Mer, syndicat de parents des quartiers populaires qui lutte contre les discriminations et les violences que subissent les enfants.
Il y a plusieurs choses. En tant que parent, c'est de notre devoir, effectivement, d'éduquer, etc. Hein, pas que, mais c'est marrant parce que de manière générale, dans la société, on dit que les parents n'éduquent pas seuls leurs enfants. Effectivement, hein, les enfants, ils passent à peu près 8-9 heures de leur journée dans l'école, etc. Et quand il y a des réussites, on dit souvent que ce sont des produits de l'école républicaine, etc. Mais quand ça ne fonctionne plus, ces enfants-là, qui étaient les enfants de la société, redeviennent les enfants de leurs parents uniquement. Ce ne sont plus les enfants de personne, seulement de leurs parents. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que les responsabilités sont partagées. Que les enfants, dans la chaîne de responsabilité, sont les derniers à être responsables. Parce que c'est à nous, adultes, de mettre en place des conditions qui vont faire que... C'est malhonnête de considérer que si un enfant exprime une colère légitime, c'est parce que son parent ne l'a pas bien éduqué. Aucun parent ne souhaite que son enfant soit entravé dans sa liberté de circuler, soit contrôlé 12 fois par jour, aille faire un tour au poste parce qu'il n'a pas pris sa pièce d'identité. Et ce sont, là, je donne des exemples qui sont des exemples réels. Moi, mon petit frère, à partir de 13-14 ans, il devait sortir tous les jours avec sa carte d'identité. Il la mettait sur sa table de chevet pour pas l'oublier. Et lorsqu'on dit « oui, mais qu'est-ce qu'il a fait, contexte, etc. », nous sommes des adultes. Ce sont nous les adultes. Nous, en tant qu'organisation de parents, en tant que militants associatifs, etc., les maires des communes nous ont beaucoup sollicités en nous disant « appelez au calme, appelez au calme ». Qu'est-ce que ce calme signifie ? Ça signifie un retour à l'ordre établi, un ordre dans lequel des enfants vivent des injustices, des discriminations et des violences. C'est indécent. À aucun moment, on questionne le cœur de tout ça, à savoir pourquoi ces jeunes sont en colère, pourquoi ils sont prêts à tout saccager, dont leur propre espace, leurs propres habitats, leurs propres écoles, leurs propres bibliothèques, etc. Et derrière, on ne pose pas la question. J'ai beaucoup entendu, oui, c'est leur propre mairie. Est-ce qu'ils sont les bienvenus dans ces espaces-là en temps normal ? Est-ce que le discours consiste pas plutôt à dire qu'en fait, ils ont leur place nulle part d'ordinaire, en fait. Mais par contre, quand ils cassent, ça devient leurs espaces, absolument partout. Et après, il y a aussi les symboles, effectivement, s'en prendre au commissariat. On ne peut pas dire que ce soit, dans un contexte comme celui-là, que ce soit dénué de sens. Est-ce qu'on le souhaite ? Non, personne ne le souhaite.
Ils l'ont tué sans raison. Il fêtait l'anniversaire d'une amie. Il sortait pour chercher des cigarettes. Ils l'ont tué. Pour ça. Il n'a rien fait. Il est mort dans sa voiture.
Le 21 mars 1984, une douzaine de familles entament leur première ronde devant le ministère de la Justice dans l'espoir d'être reçues par le garde des Sceaux, Robert Badinter.
Qu'est-ce que vous allez demander au ministre ? Nous allons lui réclamer le droit, car il est...
Les familles, principalement des mères, réclament justice pour le meurtre de leur enfant. Ce sont les folles de la place Vendôme, en référence aux folles de la place de Mai en Argentine.
Ça fait 2 ans que le meurtrier de mon fils est en liberté. Il n'y a pas de justice. Ces familles savent que leurs préjudices sont irréparables. Mais en alertant l'opinion publique, elles espèrent que le crime et la violence ne soient pas banalisés dans une société apeurée.
Elles dénoncent la dimension raciste de ces crimes policiers ou dits sécuritaires, c'est-à-dire commis par des vigiles, voisins, cafetiers, s'estimant dérangés ou en danger du fait de la présence de jeunes garçons noirs ou arabes.
Moi, j'ai un petit mot de passe à passer. Le mien aujourd'hui, le vôtre demain, alors que d'autres mères s'unissent à nous.
Les folles de la place Vendôme. Documentaire de Samir et Mognis Abdallah, 1985.
Les nôtres, ils sont passés, hein, que Dieu ait leur âme, mais il y a d'autres enfants qu'il faut protéger.
on peut dire que dans les années 1970-1980, on est dans une justice des enfants éducative, individuelle, qui démultiplie l'approche qu'on dit être de milieu ouvert.
Véronique Blanchard est historienne et enseigne à l'Université d'Angers. Elle est l'ancienne responsable du centre d'exposition historique Enfants en justice.
C'est-à-dire où la jeune n'est pas placée, mais laissée dans son institution familiale, avec un suivi au quotidien du mineur. C'est pour ça qu'on appelle ça le milieu ouvert. On va du coup faire fermer les très grosses institutions. C'est aussi la fin des bons pasteurs et des congrégations religieuses pour les filles. C'est la mise en place de la mixité dans les lieux de placement qui deviennent beaucoup plus petits en ville et plus à la campagne. C'est la multiplication de l'insertion professionnelle pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on pense que leur donner un métier, une formation, ça va leur permettre ensuite de s'insérer dans la société, que c'est un moteur essentiel. C'est aussi le tout début de la prise en charge et de la prise en compte des violences sexuelles faites aux enfants, même si le chemin est très très long, comme on le sait aujourd'hui. Voilà, donc c'est cette parenthèse-là des années 80-90, fin 70, 80-90, est extrêmement importante et va modifier en profondeur à la fois le geste éducatif, la parole éducative et le traitement éducatif.
Et puis les années 2000.
Et puis arrivent voilà, les années 2000. Et les années 2000 est un moment, au contraire, où on va rentrer à nouveau dans un cycle où l'enfance et la jeunesse en particulier fait plus peur qu'elle ne semble être à protéger. On a vraiment une dichotomie entre les enfants victimes et les enfants coupables dont il faut se protéger. Les enfants coupables qui sont souvent perçus comme les autres. Voilà, les autres, ceux des quartiers, ceux issus de l'immigration, ceux dans lesquels on ne peut pas se reconnaître, pas nos enfants.
Et c'est vrai qu'on a cette enfance associée à l'innocence et globalement une adolescence qui va parfois être associée à des figures de dangerosité ou plus couramment, on va dire, effectivement d'une forme de rébellion, d'écart à la norme, de petite déviance, etc.
Arthur Vuatou, sociologue.
Sauf qu'en réalité, on voit que ça ne concerne pas tous les adolescents et qu'il y a là, évidemment, un poids très fort des rapports sociaux qui vont construire ces figures d'adolescence qu'on va considérer comme étant plus à risque et comme étant un péril social, etc. Et ça, on le voit dans l'histoire jusqu'à, et ça, moi, ça m'a pas mal intéressé dans mes travaux, jusqu'à parfois faire sortir certains adolescents, finalement, des représentations de l'adolescence. C'est ce que certaines chercheuses ont appelé l'adultification, cette idée que certains adolescents ou certaines adolescentes en réalité ne relèveraient plus vraiment de l'enfance, de cette innocence, mais seraient renvoyés davantage à l'âge adulte.
L'adultification, dans votre ouvrage Adolescence sous contrôle, vous mobilisez ce concept à la fois donc en faisant référence à des travaux états-uniens sur les enfants et les adolescents noirs, et pour vous, dans le cadre de votre enquête donc que vous avez menée pendant 5 ans dans 2 tribunaux pour enfants en banlieue parisienne, pour les adolescents roumains, et vous parlez encore plus spécifiquement des jeunes filles roumaines.
Oui, alors c'était un cas d'étude assez intéressant pour moi quand j'ai travaillé sur les dossiers judiciaires et regardé comment l'institution judiciaire finalement construisait ces figures d'adolescence en marge quelque part, alors soit par la protection de l'enfance, soit par la justice pénale, et de regarder ça vraiment à la lumière du genre d'abord. Comment on a, en tout cas, une forme de vulnérabilité qui est considérée comme plutôt acquise du côté des filles quand on va plus rapidement placer les garçons du côté de l'adolescence délinquante et puis à sanctionner, à réprimer. Ça, c'est des choses qu'on connaît bien. Ce qui m'intéressait, c'était de voir les exceptions et de voir notamment comment ces jeunes filles roumaines, notamment, alors je le mets avec des guillemets dans le texte parce qu'elles appartiennent aux communautés roms pour l'essentiel, ou tziganes, elles sont qualifiées de jeunes filles roumaines, et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment leur situation, le fait qu'elles vivent pour la plupart d'entre elles dans des bidonvilles, le fait qu'elles aient une délinquance assez organisée, alors une petite délinquance, mais une délinquance organisée, c'est des fraudes, notamment des arrachages aux distributeurs bancaires par exemple, ou des vols sur touristes par exemple, mais de manière un peu systématique, en fait, les renvoyait pour l'institution, pour les acteurs de l'institution judiciaire du côté de l'âge adulte. Et ce qui m'a intéressé, c'était de voir justement comment ces adolescentes roumaines étaient quasi systématiquement condamnées à des peines d'emprisonnement ferme. Alors des petites peines, mais des petites peines qui se cumulent parfois jusqu'à aller des périodes d'incarcération de 6 mois, 9 mois, voire 1 an, ce qui constitue une exception absolue en matière de justice des mineurs. Aucune autre adolescente qui vole un téléphone portable dans la rue n'ira en prison pour ce vol de téléphone portable.
Ouais, c'est ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue bonsoir à tout le monde. Je peux commencer si vous voulez, comme ça, ça lance le tempo. Moi, c'est Nathalie.
Nous sommes à Nantes, dans les locaux de l'association Repère 44.
Je suis bénévole à Repère depuis 3 ans maintenant.
Association d'entraide entre pères, entre personnes qui ont eu un parcours en protection de l'enfance.
Voilà.
Moi, c'est Trésor.
Deux mercredis par mois, le collectif se réunit pour un dîner, les pieds dans le plat, afin d'accueillir les nouveaux et nouvelles, de partager bons plans, galères ou son histoire.
Ouais, tu es le coiffeur attitré de l'association, quand
même. Alors du coup, moi c'est Médina,
j'ai 21 ans, j'habite à côté de Nantes. J'ai été placée de mes 7 à mes 19 ans. Sur Nantes, Saint-Nazaire, Châteaubriant, mais toujours dans le 44. Il y a eu beaucoup de violence dans le cadre familial. Et ça, c'est compliqué parce que même si les personnes qui nous ont expliqué pourquoi on était placés, elles nous avaient bien tout expliqué. Enfin, à 7 ans, on comprend pas pourquoi on n'est plus du jour au lendemain chez notre mère, pourquoi on se retrouve avec plein de gosses dans la même maison, pourquoi faut changer d'école, tout ça. Enfin, on comprend pas. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait beaucoup de familles d'accueil, par exemple, de relais. Ça se passait pas très bien pour moi, mais pour ma petite sœur, oui. Et moi, je fuguais beaucoup. Pas par rapport à la famille d'accueil, mais juste parce qu'à l'école ça allait pas, du harcèlement, enfin le fait d'être en foyer, en famille d'accueil aussi, enfin c'est compliqué, enfin donc de pas voir ma mère, de pas voir ma sœur, donc au final je fuguais beaucoup, je zonnais beaucoup dans les rues, dans les en vrai à partir de 15 ans je rentrais un peu en boîte de nuit, donc je passais mes nuits en boîte à fuguer.
Et ça durait longtemps?
Ma plus longue fugue, elle a duré 7 mois. Et en fait, je me suis pas rendu compte sur le coup à quel point, en fait, les gens pouvaient s'inquiéter pour moi, en fait, parce que 7 mois, c'est long. Et en fait, ma mère, elle a cru que j'étais morte.
Donc, ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où, quand même, il y a un placement, donc, toi, quand t'avais 7 ans, après, il y avait des liens encore avec ta mère.
Au début, on me l'imposait. En fait, tous les ans, il y a le jugement, pour aller voir le juge, parler de la situation, tout ça. Et moi, chaque année, je disais que je voulais pas retourner chez ma mère, que ça me pesait d'y aller, que pourtant je le disais en pleurs, mais tous les ans, on me forçait quand même à aller voir ma mère tous les week-ends. Moi, voir ma mère, c'était plus comme si j'avais fait quelque chose de mal et qu'on me punissait, en fait.
Mais comment ils justifiaient alors le fait que tu dois y aller aussi régulièrement?
Pour eux, le lien parent-enfant est et surtout, ce que le parent veut était plus important que ce que l'enfant ressent, en fait. Et surtout que après, comme j'étais petite, par exemple, à 7 ans, quand j'ai eu ma première audience, je pense pas qu'on m'ait prise au sérieux. Enfin, j'étais avec un juge. Mais même, genre, les audiences, elles sont pas préparées. On rencontre un juge 5 minutes avant l'audience. Il nous dit, vous inquiétez pas. Non. Mais au final, je sais même pas s'il connaît réellement notre situation. On se défend, mais on a 7 ans. C'est compliqué de dire devant un juge. Et surtout devant sa mère qui pleure à côté. Ça, c'est le pire. C'est que, en fait, pendant toute l'audience, il y a notre mère qui est à côté et qui en pleure. Et on doit dire devant le juge et devant notre mère qu'on veut pas aller chez elle.
Moi, j'ai pas eu la chance, personnellement, d'avoir été écoutée. Et même à 18 ans, enfin à 16 ans, quand j'ai été placée officiellement par le juge des enfants, il a fallu que je me batte contre la juge des enfants pour lui dire « Là, votre décision, je suis désolée, mais elle me paraît ridicule, quoi. J'ai 16 ans et je viens de vous faire un monologue sur ce qui me semble être la meilleure décision pour moi. J'ai 16 ans, donc quand même, on commence à avoir une propre idée de ce qu'on a besoin de vivre aussi. » Et on n'est pas toujours écouté. Donc, je pense que ce qui crédibilise le plus la parole des jeunes, c'est les associations. je suis pas tant persuadée que ça que le milieu des travailleurs sociaux, par exemple, les mesures AMO, donc en milieu ouvert et tout ce qui est un truc que moi j'ai connu pendant des années, je suis pas persuadée de leur efficacité encore aujourd'hui. Parce que, de toute façon... Non, mais moi j'ai connu des situations où les travailleurs sociaux prenaient un parti pris. Entre, parce que j'ai été placée, mes parents étaient divorcés, et ils prennent parti entre les deux parents. Ouais. Et en fait, les enfants finissent par en pâtir alors que les travailleurs sociaux sont censés nous protéger, nous, et pas nos parents.
Je suis tout à fait d'accord. Je me permets, sur l'enfance, il y a aussi, enfin, moi, j'ai été placée il y a beaucoup plus longtemps que vous, on n'avait pas le même regard et les mêmes représentations à l'époque de l'enfant, à l'époque. Hein. Enfin, si tu reprends les orphelinats des années 40, enfin, j'en sais rien, un enfant, il avait juste le droit de se taire. Il parlait, il en prenait une. Voilà.
Même c'est, en 70, hein.
Oui, c'est les représentations. Moi, j'ai été placée en 81. Enfin, me demander mon avis. C'était juste... J'étais un enfant, j'étais rien. J'étais juste... J'étais même pas un adulte en devenir, j'étais rien. Donc, je te rejoins où la société, en fait, les choses bougent aussi avec les représentations sociétales.
Moi, je suis tombée sur des travailleurs sociaux qui m'ont dit, de toute façon, ton avis, on s'en fout, c'est pas notre problème. C'est, tu nous écoutes, tu fais ce qu'on te dit et ce sera comme ça. C'est tout. J'avais même 18 ans à l'époque quand j'ai fait ma demande d'accompagnement jeune majeur où ma référente m'a dit « Non, non, de toute façon, ton avis, on le met à la poubelle, quoi. » Enfin, 18 ans.
Je crois malheureusement qu'il va encore assez général. Hein,
ouais. Et c'est de ça dont on parlait l'autre jour.
C'est pas forcément de la malchance, c'est encore des pratiques trop courantes. Moi, je les ai connues sur mon parcours de travailleur social.
Et moi, à mon époque, j'ai été placée dans le Calvados, dans un petit village. Dans le petit village, je crois qu'il y avait une dizaine de familles d'accueil, tu te rends compte. Hein. Un petit village, je ne sais plus combien d'habitants, 1500 ou 2000 habitants. Et les trois quarts de familles d'accueil se servaient des jeunes, de femmes de ménage, de boniches. Moi, j'ai eu la chance, sur tout le village, moi, j'avais une belle famille qui me considérait comme ses propres enfants. Mmh. Et à l'époque, on avait quand même trois éducateurs pour un seul enfant.
C'est plus
le cas maintenant.
C'est marrant, c'est 30 jeunes. Ah, 20 à 30 jeunes pour un éducateur. Franchement, je comprends énormément qu'on a vécu des choses et tout. Moi, je peux comprendre qu'on ait une colère, mais il faut qu'on se mette à la place des éducateurs aussi.
Ils sont peut-être pas assez bien formés.
Mais tu sais, c'est pas à cause des éducateurs qu'on est là, par contre, c'est à cause de nos parents.
Non, je sais bien, mais... Non, mais on peut être là à cause de nos parents, aussi. D'accord, mais on peut aussi connaître... Moi, j'ai connu un parcours en protection de l'enfance. Je suis désolée, mais qui n'a pas été forcément salvateur, quoi. Enfin...
Et comment est-ce que tu décrirais les familles d'accueil? C'était quoi ton rapport, par exemple, famille d'accueil?
La première, je suis rentrée à 9 ans et je suis partie vers 13 ans. Donc, je suis restée quand même pas mal d'années là-bas. Après, je suis rentrée dans une autre famille d'accueil, mais elle, c'était horrible. Mais vraiment, c'était horrible parce que déjà, elle était raciste. Donc bon, par exemple, un exemple, à chaque fois qu'on gardait une émission à la télé, et c'est un personnage blanc et noir, une vieille série. Et à chaque fois qu'il y avait un personnage noir qui faisait quelque chose de mal, elle disait « Non, mais ça, c'est les noirs, hein, ils sont tous pareils, de toute façon, c'est le diable. » Et moi, j'étais là, et à chaque fois, je prenais sur moi tous les jours. Et son mari, mais c'était le pire. Son mari, un obsédé sexuel, enfin, limite un pédophile, parce que j'avais 14 ans à cette époque-là. Quand j'allais me doucher le matin, parce qu'en fait, dans la douche, il y avait une fenêtre à côté de la douche. C'était une douche italienne. Donc, il n'y avait pas de fermeture. Et du coup, bah, par exemple, de la fenêtre, on voyait tout. Et lui, bizarrement, à 6 heures du matin, il allait arroser les plantes sous la douche, enfin, à côté de la douche. Enfin, c'était la pire famille d'accueil que j'ai eue, mais vraiment, j'en ai tellement, mais chialé. En fait, j'ai chialé tous les soirs.
T'es resté combien de temps là-bas?
Je suis restée de mes 13 à mes 14 ans. Je suis restée un an et demi. Un an et demi vers là, ouais. C'est les un an et demi les plus longs de ma vie. Même avant ça, j'ai été en famille d'accueil relais pendant 3 ans. Et cette famille d'accueil relais, en fait, par exemple, ils faisaient bien la différence entre leurs enfants et nous. Au début, quand on arrivait, on mangeait pas avec eux. On mangeait, en fait, eux mangeaient en premier et nous on mangeait après.
Donc toi, pendant toutes ces années, il y a des éducateurs ou des éducatrices qui suivent quand même.
J'avais une référente à eux, oui.
Et qu'est-ce que t'aurais voulu, toi?
Moi, j'aurais voulu. Je sais que ça se fait, mais que ça se fait pas tout le temps, les visites surprises chez les familles d'accueil. genre juste une visite surprise pour qu'elle soit un peu prise au dépourvu, peut-être pendant, parce qu'en fait il y a des disputes tous les jours, donc peut-être pendant une dispute quelqu'un débarque et dit mais qu'est-ce qui se passe, et moi j'aurais dit mais c'est une connasse et voilà quoi, enfin, mais c'est vrai qu'il y a pas de visite, j'ai jamais eu de visite surprise dans toutes les familles d'accueil où j'ai été, tout était toujours préparé, donc fallait cleaner l'appartement, enfin la maison, fallait tout faire pour que faire en sorte d'être une bonne petite famille. Mais c'était qu'une illusion, quoi.
Ces tribunaux pour enfants sont des lieux clos. Moi, par exemple, je n'y ai pas accès. De pouvoir assister à ces audiences, d'avoir accès à tous ces dossiers, je voulais vous demander qu'est-ce qui, bon, au cours de ces 5 années, a particulièrement marqué le sociologue que vous êtes.
Ce qui, moi, m'a marqué, c'est quelque chose qui est beaucoup apparu dans le débat public depuis, c'est la grande précarité de l'institution judiciaire, en réalité. Alors, il y a eu une tribune en 2018 des magistrats de Bobigny, pas très loin d'ici, qui ont intitulé leur tribune « Nous sommes devenus les juges de mesures fictives », c'est-à-dire de magistrats qui alertaient sur le fait qu'en réalité, ils sont encore là pour décider d'un certain nombre de mesures éducatives, de mesures de protection de l'enfance, mais derrière, les institutions ne suivent plus, du fait d'une précarisation croissante des institutions de protection de l'enfance, des financements accordés à la protection de l'enfance, du fait qu'on a beaucoup transféré dans ces dernières décennies les crédits de la protection vers la répression, vers l'ouverture de ces centres éducatifs fermés, des établissements pour mineurs, et qu'en réalité, eh bien, finalement, les juges aujourd'hui ne peuvent plus fonctionner, en tout cas mettre en œuvre le logiciel avec lequel ils sont arrivés pour beaucoup dans la magistrature, qui allie à la fois la répression quand il le faut, mais aussi une protection des mineurs.
Donc tout ce parcours dont tu parles, ça relève de la protection de l'enfance. Et est-ce que toi, tu t'es sentie protégée ?
À plusieurs moments, oui. Par exemple, je sais qu'il y a un moment, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à me prostituer pour avoir plus de sous, pour la faire courte, je me prostituais, mais au début, je savais pas que j'étais prostituée. Genre, en fait, c'est quelqu'un qui me prostituait, mais je savais pas que j'étais prostituée. Voilà. Et du coup, après, quand j'en ai pris conscience et que j'ai quand même continué à une période, il y avait surtout une éducatrice qui s'en doutait et qui a tout fait pour que je me sorte de là, en fait, et qui m'a cherché des formations pour que je m'en sorte. Et les éducateurs, je pense que il y en a beaucoup qui ont essayé de me sortir de toute la délinquance auquel je faisais face, que ce soit la prostitution, que ce soit, genre, j'étais violente avant, j'étais très très violente, genre fallait pas me parler, hein. Fallait pas me dire non, surtout.
Et est-ce que toi, il t'est arrivé, donc t'as vu le même juge des enfants pour tout ce qui concernait la protection de l'enfance, on va dire, le placement.
Oui.
Et est-ce que... Et le juge des enfants, il a un peu deux casquettes. C'est la protection, mais aussi celui qui peut sanctionner. Toi, est-ce que tu as eu affaire au juge des enfants aussi côté...
Sanction ?
Côté sanction.
Oui, mais pas lui. C'est un autre juge. Et après, c'est pas un truc dont je suis fière. C'est que, en fait, quand j'étais au collège, je me faisais vachement harceler. Et du coup, le seul truc que j'ai trouvé à faire, c'était harceler mes harceleurs. Et du coup, je me suis retrouvée devant un juge pour me sanctionner. Normalement, je devais faire des tiges, que j'ai jamais fait d'ailleurs.
Des travaux d'intérêt.
Généraux, oui. Et il y avait une amende de 20 000 euros. C'est énorme. Je sais pas comment elle a obtenu 20 000 euros, mais beau gosse à elle. Dieu merci, j'étais placée parce que c'est le foyer qui a payé. Parce que ma mère, financièrement, elle n'aurait jamais pu payer 20 000 euros.
Et c'est une sanction pour harcèlement, c'est une sanction hyper dure.
Non, 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 ça allait plus loin que ça, en fait. Il n'y a pas que du harcèlement. Parce que, en fait, j'ai piraté ses réseaux sociaux, j'ai trouvé des photos dénudées que j'ai balancées à mon collège. Chose que je n'aurais jamais dû faire et j'en suis consciente. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu 20 000 euros et des tiges pour les images que j'ai diffusées.
Et ça s'est passé comment devant le juge des enfants ? Il est comment, en fait, le juge des enfants quand il est côté sanction ?
Ah, c'est horrible. Ah, oh, je me sentais tellement comme une merde, mais vraiment, enfin après c'est normal vu ce que j'ai fait, enfin normal. J'ai cru que j'allais aller en prison, je me sentais trop mal, je me sentais comme... Non, c'était trop horrible.
Et est-ce que dans ton souvenir, il a pris un peu en considération ce que tu disais, toi, d'avoir été harcelée et un peu ta situation, un peu sociale ou familiale?
Il a un peu pris en compte dans le sens où il m'a posé vachement de questions sur ma famille, sur... comment je vis maintenant? Enfin, quand les faits se sont déroulés, j'étais en famille d'accueil. Là, j'étais en logement. Là, à 15 ans, j'ai eu mon premier logement autonome. Je le vivais hyper mal, surtout quand t'as 15 ans et que de base, t'es pas censé avoir un appartement aussi jeune et que t'es pas censé être autonome aussi rapidement.
Et tu t'es senti écoutée?
Un peu. Honnêtement, oui. Oui. Je me suis quand même senti écoutée, oui. Bon, il y a quand même eu 20 000 euros, mais, mais je me suis senti écoutée.
Donc si vous avez 17 ans, vous êtes né en 2006 ? 2005, ouais, ok. Et 2005, c'est aussi un moment où il y a eu des révoltes. Donc vous vous en souvenez sûrement pas parce que c'est l'année de votre naissance, mais est-ce que vous connaissiez ?
Oui, bien sûr, les révoltes pour Ziad Ebouna. Ah bah c'est pareil, hein.
Amen.
L'histoire se revient. Il n'y a pas que eux, hein. Pas que Zinedine Bouna, il y a Ebo, jeune en moto, il y en a plein. Mais oui, bien sûr, je me suis renseigné sur ça, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur eux. Voilà. C'est un remake du passé, quoi. Ils veulent pas que ça, comme dirait Nino, hein, c'est vrai, ils veulent pas que ça se passe comme en 2005, mais ils font les mêmes erreurs. Voilà. Et après, c'est nous les fautifs.
La tension est toujours très vive à la cité des 4000 à la Courneuve après la mort du petit Toufik Ouanesh, âgé de 10 ans. Une manifestation a eu lieu hier soir. Les habitants de la cité sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère. Ils reprochent aux policiers de ne pas aller assez vite.
France Inter, 1983.
On accuse en vrac la vie aux 4000, l'austérité de cette cité grise aux murs clos. J'ai entendu ce matin, c'est comme une écurie ici. Dans la journée, on jette tout le monde dehors, le soir, on nous parque. C'est trop grand, c'est trop concentré, on étouffe. Et cela fait des années qu'on réclame un stade et une salle de jeu, s'écrie Saïd. S'il y avait eu des flippers, un baby-foot dans un coin, le petit Toufik ne serait pas mort aujourd'hui.
Pour les enquêteurs, c'est clair, ce n'est pas le racisme, mais d'abord la colère et l'énervement qui sont responsables de ce genre de drame. À cela s'ajoute parfois la chaleur. Il faut
merci
dire que dans ce domaine, le mois de
à la classe de CE1 de Caroline Séchant de l'école Tourtille à Belleville, à Aymen, Gundo Diawara, Mohamed Razan, Véronique Blanchard, Arthur Vuatou, Medina, Nathalie, Espoir, Manon, Brigitte, Yanis, Hélène, ainsi que toute l'association Repère 44 pour leur accueil, tout particulièrement à Brice et Alissa Denisova. Prise de son, Fabien Gosset, Lucien Lefebvre et Pierrick Charles. Mixage, Bruno Mourlan. Stagiaire, Agathe Veil. Documentation Radio France, Anne-Lise Signoret. Archivina, Sophie Enoch. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Les enfants peuvent-ils parler? Le droit à l'innocence. Un documentaire de Clément Salzar, réalisé par Anne Fleury. Vous pouvez le réécouter sur franceculture.fr et retrouver le podcast sur l'appli Radio France.